Oscar Huguenin, Nos vieilles gens. L'apprenti tailleur. Chapitre 6. Quand le premier feu du courroux de ma mère fut un peu calmé, l'épineuse question de nos habillements et le désarroi de ses plans à ce sujet lui revinrent désagréablement à l'esprit. Elle s'était mise à tricoter près de notre établi et réfléchissait profondément, un pli creusé entre les sourcils. Au bout de quelques minutes, elle releva la tête, tira une aiguille de son tricot et la planta dans sa chevelure. Puis, avec décision, « Pour en revenir à ses habits, il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est d'en passer par le causandier. » Si mon père avait eu moins de tact, ou plutôt moins d'égard et d'affection pour sa femme, c'eût été le moment de triompher et de dire « Tu vois, Henriette, si tu m'avais cru, nous sommes déjà bien aises de l'avoir, le pauvre vieux. » Mais cette réponse n'eût été ni d'un diplomate, ni d'un mari aimant, et qui tient à la paix du ménage. En définitive, sa femme avait sacrifié les plans qu'elle caressait depuis si longtemps, et elle l'avait fait pour obéir à sa conscience. Ne devait-il pas lui en tenir compte? Aussi fut-ce du ton d'un sincère regret et sans la moindre nuance de taquinerie qu'il répondit en se grattant l'oreille « Le fait est, Henriette, qu'ici, à la Sagne, il n'y a personne d'autre que Félix-Henri, pour le moment, que je sache. » Non, il n'y a personne. Voici comment nous allons arranger les affaires. Demain, c'est dimanche. Les chemins seront ouverts. Félix-Henri viendra au sermon en glisse depuis Marmoux, avec les Mathilde et les Pernoux. Il s'agira de ne pas le manquer, et de l'assurer pour 2 semaines au moins, depuis lundi. Toi, Charles-Auguste, n'oublie pas, au catéchisme, de dire au garçon à Jérémie Tissot qu'il passe chez son parrain lundi, vers les 9 heures, sans faute. Je promis de ne pas oublier la commission, et ma mère poursuivit. Voilà qui est en règle pour le catéchumène. Nous avons le drap, il n'y a pas de risque qu'on en manque. Du temps du grand-père, on portait les habits 2 fois grands comme au jour d'aujourd'hui. Pour ce qui est de vous, c'est une autre affaire. Il nous faut du neuf, c'est entendu. Et comme il n'y a plus que les frères Dubois, du Locle, qui ne volent pas, il faut que j'y aille lundi, une fois que Félix-Henri sera bien en train. « Seulement, Henriette, objecta mon père, tu avoueras qu'avec des tas de neige pareilles... »« Est-ce que tu t'imagines que ceux du Locle ne passent pas le triangle tout comme nous? Il faut bien qu'ils fassent les chemins pour les gens de la Jalouse, des monts Pugin et jusqu'à la Baume d'Entre-deux-Monts. Et puis, l'oncle Philibert, pour qui le prends-tu? Crois-tu qu'il y ait besoin de lui faire signe avec un vent pour qu'il ait l'idée d'atteler son Fuchs à la glisse pour me mener au Locle? » « Tiens, c'est vrai, » fit mon père avec satisfaction. « Comment ça ne m'était-il pas venu à l'idée? Oui, oui, l'oncle Philibert est toujours porté de bonne volonté, c'est un fait. Et surtout, » ajouta-t-il avec un sourire, « quand il s'agit de sa nièce. S'il a un faible pour quelqu'un, c'est bien pour toi, Henriette. » Cette observation fit évidemment plaisir à ma mère, qui dit en hochant doucement la tête, « Aussi bien, l'oncle Philibert est le propre frère de ma mère. Et c'est le seul qui reste de la famille. » Cet oncle Philibert demeurait au quartier du coin, à une portée de fusil plus bas que chez nous. De nos fenêtres, on pouvait voir souvent sur son pont de grange en pente la grande silhouette un peu voûtée du vieillard, toujours actif et remuant, en dépit de ses 75 ans. C'était un vieux garçon jovial, qui cultivait ses terres et exploitait sa tourbière avec l'aide d'un valet presque aussi âgé que lui, le long aimé comtesse, pauvre être à l'intelligence bornée, aussi laid qu'un singe, mais un singe de la grande espèce, robuste et chêne, et qui se fut mis au feu pour le maître qui lui donnait asile et le traitait avec bienveillance. Quant au ménage du maître et du valet, il était, pour le moment, ainsi que la cuisine, tenu d'une façon extrêmement primitive par une petite bossue hargneuse d'une 30aine d'années, aussi mal tourné d'esprit que de corps. Triste épave de la vie, que l'oncle Philibert avait recueillie par bonté d'âme et dont il supportait le caractère déplorable avec une patience qui exaspérait ma mère. Il fallait l'entendre, ma mère, au retour de ce qu'elle appelait une de ses petites échappées au coin, véritable tournée d'inspection où elle passait une revue implacable de l'intérieur de son oncle, y engageait de chaudes escarmouches avec son acaciâtre femme de ménage. C'est tout de même trop fort comme l'oncle Philibert se laisse mener par cette pièce de Mélanie. Il faut voir comme ce ménage est tenu, un vrai chenil. Une couche de poussière à écrire son nom sur les meubles, un plancher aussi crotté que celui de l'écurie, des lits pas refaits à 3 heures de l'après-midi, et une tête, et une langue, et des raisons. C'est tout le bout du monde, si je peux, moi, avoir le dernier mot avec elle. L'oncle, lui, se laisse tout dire et tout faire, mêmement qu'il va jusqu'à prendre son parti. Ne m'a-t-il pas dit tantôt « Bah, Henriette, ne t'en donne pas voir tant avec cette fille. Il faut la prendre comme elle est, notre Mélanie. Qu'est-ce que tu veux? Depuis toute petite, on lui a toujours fait la vie dure. Ces sacrés gamins qui n'ont rien de bon ne faisaient que se moquer de sa bosse. Lui demander si elle savait le nom de son père, enfin, toute espèce de vilainie. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi vous engringer? Pour ce qui est du ménage, il ne faut pas être trop difficile. Moi, je trouve que ça ne va pas tant mal. Un peu plus, un peu moins de poussière, ce n'est pas une affaire, finalement. Le plancher, monté, c'est notre faute à aimer et à moi, s'il est un peu embouselé. Quand on a des bêtes, ça ne peut pas être autrement. Oui, voilà, continuait ma mère en laissant tomber ses bras de découragement. Voilà comme il prend les choses, l'oncle Philibert. À quoi mon père répliquait avec son fin sourire. Oui, oui, il n'y en a pas beaucoup de son espèce. Puis, à cette déclaration passablement ambiguë, il ajoutait celle-ci, autrement catégorique. « Et c'est un bien brave homme. » Bien que secrètement flattée de cet hommage rendu à son oncle, ma mère hochait la tête en murmurant. « C'est tout de même dommage que... » Mais elle en restait là, se disant, sans doute, que ce n'était pas à elle de jeter le blâme sur le propre frère de sa mère. « Ça fait que tout est en règle. » conclut mon père en offrant une prise à sa femme avant de se servir lui-même. On ira dire un mot à l'oncle Philibert pour lundi. D'ailleurs, je garantis, Henriette, qu'il viendra te chercher demain pour te mener en traîneau au sermon. Moi, j'assurerai le causandier, pourvu qu'il n'aille pas être pris ailleurs. Ma mère secoua la tête et d'un geste péremptoire balaya cette éventualité fâcheuse. Comme qu'il en aille, déclara-t-elle. Il faut qu'il s'arrange pour venir chez nous. Quand il s'agit de 3 habillements, on a bien le droit de passer les premiers. Ne manque pas, au moins, de bien lui expliquer les affaires, si je ne le voyais pas, moi. » Mon père fit un signe d'assentiment, mais ne put s'empêcher d'objecter en se grattant l'oreille. « Tout de même, si Félix Henry avait promis à quelqu'un... »« C'est son affaire. Qu'il s'arrange, comme j'ai dit. » »« Bon, bon. » « Espérons que tout s'engrainera bien. Toi, Charles-Auguste, tu as ta commission à faire au garçon Tissot. À propos, n'a-t-il pas un drôle de nom, mon filleul? J'ai beau faire, je ne peux jamais me rappeler comment on l'a baptisé. C'est quelque chose comme Victor ou Hector. »« Nestor, rectifiai-je. Pardi, oui, Nestor, c'est bien ça. Une de ses idées à Jérémy Tissot. Je pense qu'il avait trouvé ce nom dans son fameux Télémaque. Il a toujours le nez fourré dans ce livre qu'il avait eu aux montes du régent Convert, aux enchères du régent Convert, avec une paire de bésicles fendues et une espèce de clarinette qui ne jouait plus. « Voilà ce que c'est, » prononça ma mère avec une sévérité ironique. « Voilà ce que c'est que cette rage d'aller aux montes quand on n'a rien à y faire. On en rapporte toutes sortes d'encombres qui ne sont bons qu'à jeter au fourneau. » C'était une pierre lancée dans le jardin de son mari, lequel s'était laissé aller, quelques mois auparavant, à assister aux enchères du mobilier d'un de nos voisins, et en avait rapporté un bahut si complètement vermoulu qu'il avait suffi d'un choc malencontreux pour en séparer complètement les 4 côtés. Là-dessus, ma mère, sans plus de façon, avait fini de démolir le vénérable meuble à coups de serpe et en avait jeté au feu les misérables restes. Mon père et moi avions du moins sauvé du désastre le contenu du bahut, à savoir une 12 douzaine de calendriers passablement rongés des souris, mais décorés d'estampes qui faisaient mon admiration. On y voyait le grand et authentique serpent de mer, fidèlement représenté au moment où il avale un vaisseau à 3 ponts, avec son équipage, ses mâts et sa voilure. Une autre planche, non moins dramatique, montrait le régicide d'Amiens aux mains du bourreau, qui le tenaillait, l'écartelait, jusqu'à ce que la mort s'ensuivît. Il y en avait bien d'autres, tout aussi palpitantes, accompagnées d'un texte que la dent des rongeurs n'avait malheureusement pas toujours respecté. Ma mère, hélas, avait un beau jour déclaré que des horreurs pareilles n'étaient bonnes qu'à procurer de mauvais rêves aux enfants de mon âge. Et les précieux calendriers avaient disparu à mon grand crève-cœur. J'ai des raisons de croire que mon père lui-même n'avait pas vu sans alarme et sans mécontentement la maîtresse de la maison faire rafle sur son emplette des enchères et l'emporter à la cuisine, car il l'y suivit aussitôt, sans doute pour tâcher d'épargner aux vénérables calendriers le sort du bahut qui les avait contenus. Je n'appris que bien des années après que son intervention avait été efficace en retrouvant au galetas, derrière un tas de fagots, les restes informes, rongés cette fois plus qu'aux trois quarts, des calendriers qui avaient fait mes délices. Mon père ne répliqua rien à l'allusion que venait de faire sa femme à son achat malencontreux de naguère. Il se contenta de sortir sa tabatière en écorce de bouleau de la cachette où il la tenait sous son établi, d'en tapoter doucement le couvercle, puis de le présenter tout ouvert à sa femme d'un geste aimable et conciliant que j'interprétai comme suit. C'est entendu, j'avais fait une bêtise, n'en parlons plus. La prise offerte, gage d'entente et de paix, fut acceptée, et dans le regard que ma mère leva rapidement sur son mari, il me parut qu'il y avait quelque chose d'attendri, quelque chose qui voulait dire « Tout de même, ton Alfred est un brave homme. À sa place, Dieu sait ce qu'un autre aurait répondu. »